Aujourd'hui, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, nous verrons le deuxième volet de mon exposé, comment développer et ressentir un profond dédain à l'égard du péché. Aujourd'hui, ce sera le cœur de ces deux volets. Il y a beaucoup de matière à voir dans ce deuxième volet, mais je veux revenir légèrement à l'arrière dans une partie qu'on a faite dans le premier volet. Nous avons entendu qu'il nous faut haïr le péché et ressentir un très profond dédain à l'égard de ce qu'il provoque comme complication dans notre vie spirituelle. En général, les dédains que nous ressentons sont liés à nos sens physiques, par exemple la vue, comme ce fut le cas dans le premier volet, voir les crocodiles dans une vidéo naturellement. Voir les crocodiles déchiqueter et dévorer les petits gnous, ou les bébés zèbres qui traversent la rivière Mara, ou les fameux serpents venimeux, ou encore les rats vecteurs de maladies. Par l'ouïe, par ce que nous entendons, soit des bruits de ferraille ou du métro qui circule dans les tunnels, ou un train qui siffle. Par le goût, par un aliment mauvais ou de l'eau ou un breuvage contaminé ou autre. Par le toucher. Dans mon exemple ici, je crois que les dames en seront plus affectées que nous, les messieurs. C'est lorsque nous mettons nos doigts dans un sac sans voir ce qu'il y a au fond et que vous arrivez au fond du sac et il y a une genre de gelée collante et toute pendante au bout des doigts, et qui ne voit pas du tout le moment où elle peut se décoller de la main. Et enfin, l'odorat. Sentir des produits toxiques ou des décharges de détritus alimentaires ou encore des animaux en pétrifaction. Commencez-vous à ressentir un peu de dédain? Parce que c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et si vous ressentez un peu ou beaucoup de dédain à l'égard de ce que nous venons d'entendre, cela n'est rien à comparer au dédain que nous devons ressentir à l'égard du péché. Ce type de dédain ne peut pas être mixé avec nos sens. On peut s'habituer au dédain que nos sens physiques nous font sentir et ressentir un certain équilibre et pour certaines autres personnes, un certain confort à force de s'habituer à cet inconfort que l'on a ressenti la toute première fois qu'on est entré en contact avec ce malaise par l'intermédiaire de un de nos sens. Par contre, le dédain à ressentir envers le péché nécessite un intérêt qui se positionne bien avant une action ou une chose physique à exécuter. Je m'explique. Le dédain est relié au péché et le péché est relié à la loi. Et la loi, elle, est reliée à l'intention de notre cœur et le principe de la pensée à l'égard de poser une action en fonction d'une chose physique à faire ou à ne pas faire. Et cela est lié exclusivement à la pensée, sans nécessairement poser l'action que la pensée engendrera dans le désir de poser l'action. La loi sensibilise l'intérêt d'une personne à l'égard de poser une action ou de ne pas poser cette action. Dieu nous accorde le choix en tout temps de faire ou de ne pas faire. Et là où la partie physique entre en action, c'est à l'intérêt que l'on porte sur la chose physique qui, elle, cette chose physique, porte notre désir à faire ou de ne pas faire. L'intention de pécher est provoquée avant de pécher, avant de passer à l'action, de ce que la chose physique peut déclencher en nous pour accepter de se livrer à ce que nos pensées auront accueilli comme potentiellement acceptable afin de passer à l'action. L'action physique est le résultat de la prédisposition d'un intérêt qui s'est manifesté en premier lieu dans notre pensée avant de poser l'action physique, qui, elle, cette action physique, est l'aboutissement d'une réflexion à un désir établi par la pensée pour poser une action ou de rejeter le désir de céder à l'action en question. L'apôtre Paul nous parle de cette difficulté à laquelle nous pouvons être en tout temps confrontés. Allons à Romains, s'il vous plaît. Romains. C'est un passage que nous avons déjà vu, mais important de le revoir. Romains 7, et nous prendrons le verset 14. Je suis dans Romains 7 au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Au verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Allons au verset 18 maintenant. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et on termine avec le verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Notre nature charnelle a une assez forte influence sur l'aspect d'un désir qu'on pourrait ressentir dépendamment de la situation qui se présente à nous dans notre quotidien. L'aboutissement d'une réussite ou d'un échec à l'égard d'un choix à faire dépendra de notre vigilance à saisir ce que la chose qui se présentera à nous sera bonne ou mauvaise. Et le tout se fera au niveau de l'esprit, de nos pensées, avant d'aboutir à une action, quel que soit le résultat qui en émergera. Dans cette approche que nous venons de voir par rapport à notre nature charnelle, son influence sur des décisions et des actions à prendre, il est important d'avoir une vigilance extrême face aux belles fausses opportunités qu'elle aimera que nous prenions pour nous satisfaire et se réjouir d'un faux bien-être qu'elle pourra nous apporter ou nous procurer. Et si nous ne contrôlons, et si nous ne le contrôlons pas nos pensées, si on ne contrôle pas nos pensées, après un certain temps, on peut devenir confortable avec le péché, et le péché peut devenir un peu moins important. Et avec le temps, on en vient à se convaincre que ce n'est plus péché. Et lorsqu'on arrive à ce genre d'attitude, il est dangereux d'en arriver aussi à se dire que si Dieu ne me reprend pas, c'est que je suis correct. Et Satan aime beaucoup que nous ayons ce genre de réflexion ou encore des pensées qui vont dans ce genre de perception. L'adversaire ne cherche pas à nous séduire simplement et uniquement avec des choses physiques. Il sait pertinemment que lorsqu'on est en dehors de la vision des choses physiques, qu'il lui reste un atout percutant pour nous séduire, le libre arbitre de nos pensées. Lorsque nous sommes en repos ou en réflexion sur différentes choses, ou encore sur des aspects de notre vie en tant que changement à apporter, et surtout en ce moment, à l'approche d'un engagement très précieux que nous avons pris avec Dieu par l'intermédiaire du sang précieux de Christ qu'il a versé pour nous, afin de nous lier au Père et qu'il fasse de nous des enfants de lumière aujourd'hui et plus tard des enfants appartenant pleinement à Dieu dans sa famille, le royaume à venir au retour de Christ. Nous nous retrouvons en ce moment à un moment important de l'année où nous avons à réfléchir, voir où nous en sommes rendus dans notre cheminement spirituel, à prendre des décisions importantes, relatives sur des choses qui auraient dû être changées il y a peut-être longtemps, mais qu'aujourd'hui, il est temps de passer à l'action concrète. Et ces changements qui auraient dû être faits il y a longtemps. L'adversaire n'est pas sans savoir que nous célébrerons un moment historique dans le plan de Dieu bientôt. Il connaît très bien la valeur que nous représentons pour Dieu. Et à cet effet, allons à 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre. Pierre, et nous prendrons le chapitre 2, 1 Pierre 2, et nous irons au verset 4. Je suis dans 1 Pierre 2, au verset 4. Alors, je suis dans 1 Pierre 2 au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Allons au verset 9 maintenant. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il y a une très grande possibilité que l'adversaire veuille nous faire sentir coupables d'avoir abandonné certaines façons de faire les choses dans notre vie passée, et de faire en sorte que par des incitations dans nos pensées, il puisse nous ramener dans des anciennes conditions de vie que nous avions et de permettre par ces incitations que nous ressentions un certain équilibre à sa façon à lui de voir les choses pour ce qui est de distinguer vraiment ce qui est bon pour nous. Et cela, il le fait tout en sachant que les lois de Dieu, les lois que Dieu met dans notre vie sont pour nous notre bien-être spirituel et notre bien-être physique. Il ne faut jamais, jamais oublier que dans tout ce que nous entreprenons, Satan y mettra beaucoup de lui-même comme enclave à nos choix à prendre pour ce qui est de marcher avec Dieu ou pas. Dans ses intentions, dans ses incitations, il permet qu'il y ait un peu de bon, un peu de mauvais, afin de nous faire succomber à ses charmes. L'adversaire verra toujours une opportunité d'espoir de nous ramener dans les pentes glissantes du péché. Et la particularité de chacun de nous avec laquelle il va s'efforcer de séduire, ce sont nos pensées. Et c'est sur les pensées que nous travaillerons pour développer et ressentir un profond dédain à l'égard du péché. Mais pour bien saisir que nos pensées sont la base d'une bonne ou d'une mauvaise direction dans nos vies, voyons ce que Dieu met ou ce que Dieu nous permet de comprendre sur ce sujet afin que nous posions les gestes nécessaires pour en arriver à mieux se positionner chacun de nous avec le contrôle de nos pensées. Allons à Jérémie 17, s'il vous plaît. Jérémie 17. Jérémie 17, et je prendrai le verset 9. Je suis dans Jérémie 17 au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Allons maintenant à Genèse 8. Genèse 8, et je prendrai le verset 21, dans Genèse 8 au verset 21. Ici, c'est l'Éternel qui parle après que Noé est sorti de l'arche et qu'il avait fait un holocauste. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Revenons maintenant à Jérémie 17. À Jérémie 17. Et cette fois-ci, prenons le verset 10, Jérémie 17 au verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On peut donc considérer qu'il y a un lien étroit entre nos pensées et notre cœur. Notre cœur réagira en fonction. Notre cœur va réagir en fonction de ce que nos pensées lui auront transmis pour connaître s'il aime ou s'il n'aime pas. Le cœur réagira au désir qu'il aura reçu d'une pensée et cela créant le désir d'agir ou de ne pas agir. Mais nos pensées sont à la base d'un choix. Nos pensées sont à la base d'un choix que notre cœur disposera pour exécuter ou pour ne pas exécuter une action. Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, nous explique comment tout est si bien relié à nos pensées en fonction d'éventuelles actions à faire ou à ne pas faire. Allons à Philippiens 4, s'il vous plaît. Philippiens 4. Philippiens 4. Nous prendrons le verset 8 dans Philippiens 4. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, sous-entendu, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyons maintenant comment créer ce dédain, au niveau du péché. La toute première chose à faire devant une pensée qui nécessiterait une réflexion et une indécision ou un certain malaise, c'est d'entrer immédiatement en contact avec Dieu et de lui faire savoir qu'il y a un bouleversement ou une interrogation qui se manifeste dans nos pensées. C'est de lui demander d'introduire sa paix, cette paix que Christ a promis à ses disciples, mais également à nous aujourd'hui. Allons à Jean. S'il vous plaît, Jean 14. Jean 14. Et nous prendrons le verset 27. Jean 14 au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allons maintenant à deux chapitres plus loin. Allons à Jean 16 et prenons le verset, le dernier verset, verset 33. Alors, je suis dans Jean 16 au verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En second lieu, ce que notre pensée aura apporté à notre cœur pour savoir s'il aime ou s'il n'aime pas, c'est de déterminer à quelle loi de Dieu les incitations que nous venons de recevoir seront directement liées à un commandement très précis concernant l'action qui sera à faire ou à rejeter. Il faut identifier les dégâts sévères que causera une action qui ne doit pas être exécutée alors que nous aimerions faire cette action. Il faut ressentir toutes les répercussions que causera l'action d'un désir qui ne devrait pas être exécuté alors qu'on aurait le désir de le faire. C'est l'évaluation précise du mal qu'il procurera à notre entourage, à nous-mêmes et à la brisure du lien qui nous attache à Dieu par l'intermédiaire du sang de Christ. Après avoir localisé avec précision le commandement qui sera touché ou transgressé, il nous faut regarder quels sont les autres commandements qui pourraient être touchés et eux aussi transgressés par le péché qui veut s'introduire en nous. Le dédain que nous ressentirons à l'égard du péché sera proportionnel aux conséquences tragiques et destructives d'avoir transgressé la loi de Dieu et d'avoir bien saisi et compris l'irréparable condition dans laquelle on s'expose. Et tout cela doit être réfléchi avant de laisser nos pensées transmettre à notre cœur que la chose à faire est bonne ou surtout mauvaise. Dieu pardonne nos faiblesses et nos chutes devant le péché commis, mais il le fait en conséquence d'un repentir sincère et d'un changement actif dans notre vie. Dieu veut et s'attend à des changements dans toutes les circonstances auxquelles nous pouvons être exposés, et sachant très bien que nous serons ou que nous pourrons être constamment devant un choix ultime de faire ou de ne pas faire. Il tient compte de l'intensité de notre cœur à l'égard de vouloir en tout temps faire ce qui est bon et productif dans notre vie. Lorsque nous pouvons évaluer l'impact destructif d'une action que nous aimerions poser, les conséquences psychologiques néfastes qui resteront après le péché, les séquelles physiques avec lesquelles nous aurons peut-être à composer et à vivre pour le reste de notre vie. Cela, pour chacun de nous, devrait créer le dédain nécessaire qu'il nous sera indispensable d'avoir pour lutter et bannir le péché de notre vie, tout en sachant que c'est encore avec l'aide de Christ en nous et nous en restant attachés à Christ que la réussite d'avoir ce dédain pour le péché nous sera octroyée. Allons à Jean 15, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jean 16, un chapitre avant. Prenons Jean 15, où Christ nous confirme que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Alors, je suis dans Jean 15, au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme nous avons vu il y a quelques instants que le dédain sur le péché ne peut être senti que si nous évaluons avec précision les dommages qu'il peut causer en chacun de nous. Dans la Bible, et nous y voyons un exemple qui fait référence à la nature de l'homme. Allons dans 2 Samuel 11, s'il vous plaît. Ah. De Samuel 11. Et nous prendrons le verset 2. 2 Samuel 11 au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. À la lecture de ce passage, on peut supposer qu'il n'y a pas de péché. David se lève, il ne réussit pas à dormir, il se promène sur le toit de sa maison et voit une femme qui se baigne. Et la Bible nous dit que cette femme était très belle de figure. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version Osterval, on nous dit que cette femme était fort belle à voir. Et dans la version du Monde Nouveau, on nous dit qu'elle était d'une très belle apparence. Alors David se lève, il ne réussit pas à dormir. Il se promène sur le toit de la maison et voit une femme qui se baigne, que la Bible nous dit que cette femme était très belle. On ne peut pas reprocher à David de voir une jolie femme qui devait être dénudée alors qu'elle se baignait. Ici, je voudrais que nous portions une petite attention, surtout à nous, messieurs, il est très plausible qu'en allant faire votre épicerie ou autre chose, que nous rencontrions une jolie dame bien vêtue et que nous faisons que constater que c'est une très jolie personne. Mais si nous revoyons cette même personne sur une plage où la tenue vestimentaire est très légère, il y a le gros risque d'un gros problème qui affectera notre pensée et pourrait créer une vision totalement différente que le fait de voir ou de constater que c'est une belle dame, rien de plus. Et le même procédé peut également se manifester chez les dames face aux hommes. Le péché n'est pas nécessairement dans le premier regard que David porte à cette femme. Le péché se retrouve dans la montée du désir que David va ressentir pour ce corps féminin qui est exposé. Il est important également de bien saisir que toutes les tentations ne procèdent pas directement et toujours de Satan. À cause de la nature pécheresse qui est en nous, selon les situations ou les circonstances, homme ou femme, nous pouvons laisser le péché s'amorcer et il se mettra en marche très rapidement. Et le péché, une fois qu'il est amorcé, il devient difficile de l'arrêter. Être tenté, ce n'est pas péché. Le péché survient lorsque nous succombons à la tentation. Et David a succombé à la tentation. On peut constater en quelques versets que David va commettre une série de péchés. Il a laissé sa nature charnelle l'envahir et prendre le dessus sur lui, sur ses émotions qui, elles, l'ont poussé au désir d'agir. David est séduit par la beauté de cette femme, un profond désir de passer à l'action, le pousse dans une direction qui l'amènera à transgresser plusieurs commandements. En premier lieu, il convoite la femme de quelqu'un d'autre, le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Par la suite, il commet l'adultère, le 7e commandement. Tu ne commettras point l'adultère. En troisième lieu, Il commet un meurtre, le sixième commandement, tu ne tueras point. Vient également en même temps le mensonge dans tout l'arrangement du meurtre de Uri, le neuvième commandement. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Il a également volé la femme de Uri, le huitième commandement. Tu ne déroberas point. Et à ce moment-là, David n'a pas demandé conseil à Dieu sur ses intentions à l'égard de vouloir coucher avec Bathsheba. Ce qui implique qu'à ce moment-là, Dieu n'était pas en premier dans son esprit et dans son cœur. Le plus important des commandements, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous pouvons constater ici que un premier commandement non respecté a amené la transgression d'une grande quantité des autres commandements reliés à la transgression de un seul commandement. Et cela sans compter toutes les perturbations et les épreuves avec lesquelles David a dû composer pour le reste de sa vie. Absalom, tu as Amnon. Absalom, tu as Amnon, son frère, qui lui déshérita, déshonora Tamar, la sœur de Absalom. Et Absalom fut tué également par Joab, alors qu'Absalom voulait prendre le contrôle de Jérusalem. Et David a fui devant Absalom, sachant que Absalom serait sans pitié pour David et ses serviteurs. Un grand trouble s'est installé dans la famille de David. Revenons maintenant à 2 Samuel. Samuel, nous prendrons le chapitre 12 de 2 Samuel. Et nous irons au verset 10. Ici, c'est Nathan qui était allé auprès de David et il lui dit, Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri, de l'Hétien, pour en faire ta femme. Au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Au verset 12, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment développer le dédain nécessaire pour pouvoir rejeter toute incitation dans nos pensées qui nous amèneront à pécher. Et cela se fait en associant le lien très précis qui affectera le ou les commandements qui seront impliqués dans le processus de notre décision pour ce qui est d'exécuter la meilleure action possible pour nous. Pour ne pas subir les effets négatifs à court terme ou à long terme. L'importance de se poser une question devant une pensée, c'est de se demander où cela va me conduire. Et quel est le prix que j'aurai à payer si je pose tel geste ou telle action? Lorsque nous pouvons évaluer rapidement qu'un scénario de désastre est au-devant de nous, et si nous laissons notre nature charnelle de par nous-mêmes et sous les incitations de Satan par nos pensées nous dominer, on risque de se retrouver dans une situation où nous ne pourrons plus contourner le péché. Il sera plus difficile de faire marche arrière ou de rebrousser chemin, si je peux dire. Il faut être convaincu que le péché, peu importe la forme sous laquelle il se présentera, que ce n'est pas bon pour nous. Il faut en venir à être inconfortable avec le péché, avec ce qu'il représente et ce qu'il cause comme dommage. C'est important d'aller vers Dieu et de lui demander de nous rendre inconfortables avec le péché. Allons à 1 Timothée, s'il vous plaît. 1 Timothée. Un Timothée, nous prendrons le chapitre 6 de 1 Timothée. On nous parle ici d'un désir très prononcé chez les hommes, et l'apôtre Paul, par le biais de Timothée, nous ramène dans les choses essentielles et précieuses pour nous. Et cela implique pour nous d'avoir de la vigilance sur le contrôle de nos pensées et de nos désirs. Allons à 1 Timothée 6 au verset 10. 1 Timothée 6 au verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tombes. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Au verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Un bon contrôle sur nos pensées nous amènera à avoir un cœur pur sur le vrai but de la vie et sur notre destinée à tous. Le péché peut impressionner et capter avec une grande facilité notre attention. L'importance d'être confortable et de se diriger vers Dieu, aller vers lui et lui demander de travailler avec nous et sur nos problèmes, et en plus de nous donner la patience d'attendre certaines de ses réponses à lui pour ce qui est de régler de gros problèmes qui nous envahissent et que nous aimerions qu'il se règle au moment où nous lui demandons d'intervenir. Car certaines réponses de Dieu pourront venir un peu plus tard dans le temps. Il faut s'attendre à cela que Dieu seul peut juger de l'importance d'une réponse dans l'immédiat ou un peu plus tard. Naturellement, quand ce sont des choses graves comme la convoitise d'une femme, l'adultère, vaut mieux avoir une réponse très rapide de Dieu et avoir la capacité d'action de s'éloigner de ce type de danger. N'oublions pas que la patience est un fruit de l'esprit, un trait élevé de son caractère. Il construit en nous ce genre de caractère. Notre communication, notre lien avec Dieu ne doit pas être limité à un ou deux mots. Il est notre Père. Il ne faut pas être mal à l'aise ou inconfortable de lui parler de quoi que ce soit qui doit nous relier à lui, mais toujours dans la perspective qu'il est Dieu et que nous sommes ses enfants de poussière. Quand nous respectons cette hiérarchie de position entre nous et notre grand Dieu, notre Père, celui de qui nous dépendons en toute chose, il devient plus facile pour nous d'avoir cette proximité que Dieu s'attend que nous ayons avec lui pour ce qui est d'atteindre des buts, les buts que Dieu nous permet d'explorer et d'exploiter pour ce qui est de la formation d'un caractère stable et équilibré. Le péché couchera à notre porte jusqu'au retour de Christ et à l'instauration du royaume de Dieu. Se tourner et aller vers Dieu peut créer certains malaises devant un péché où nous avons succombé. Mais gardons à l'esprit que plusieurs de ces malaises viennent du malin, de l'adversaire, qui ne veut pas que nous ayons une belle proximité avec notre Père et Jésus-Christ. Il nous fera illusionner que Dieu est très grand, très puissant et qu'il peut nous donner toute une correction. si on ne fait pas attention à ce qu'on dit à Dieu. Mais attention, c'est encore là une astuce de Satan qui veut nous rendre tout petits et comme des déchets irrécupérables devant Dieu. Oui, nous sommes petits devant Dieu, mais pas à la façon dont Satan aimerait que l'on se voit nous-mêmes devant Dieu. Dieu a un but très précis avec nous, ceux qui ont un désir intense de permettre au Père et à Jésus-Christ d'habiter en eux dans le but de cette transformation au niveau de notre caractère, afin qu'ils deviennent plus représentatifs de celui de Dieu. Le péché sera en tout temps un élément avec lequel un enfant de Dieu aura à lutter quotidiennement. Nous devons à tout instant surveiller les pentes glissantes du péché, sa procédure d'approche pour nous séduire, ses astuces malveillantes pour nous ramener dans une ancienne façon de faire les choses. Et nous devons nous prémunir de toutes les armes à notre disposition. Et une de ces armes est d'haïr le péché, développer le dédain nécessaire pour y faire face et avec l'aide de Christ, le supprimer de notre vie. L'ennemi du péché, c'est la loi de Dieu, ses commandements et la valeur de chacun d'eux. Dieu a commencé quelque chose de magnifique avec chacun de nous. Et dans Philippiens 1,6, on ne s'y réfère pas, prenez-le en note, dans Philippiens 1,6, nous dit que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le péché est mauvais pour tout le monde. Et le fait de ne pas le laisser entrer dans notre demeure est un gage de stabilité vers le caractère important qu'il nous est nécessaire d'avoir pour aider et former beaucoup de personnes qui chercheront à vouloir marcher avec Dieu dans le millénium de paix et de beauté qui est au-devant de nous au retour de Christ. Examinons-nous précieusement à la vue de cette Pâque cette année et restons toujours motivés à l'égard de la récompense à venir et à tout ce que Dieu nous permettra d'accomplir maintenant et dans le futur monde à venir. Je terminerai avec un passage encourageant pour que nous comprenions et sachions avec précision qu'est-ce que nous valons pour Dieu. Allons. Je vais le prendre, je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin de vous y référer. C'est 1 Pierre 2 que nous avons vu, 1 Pierre 2 et le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, encourageons-nous avec ces merveilleuses paroles et à tous, je vous souhaite une agréable fin de sabbat.